Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par les appels adressés au 15. L'appel au 15, numéro d'urgence du SAMU, est un maillon essentiel du système de secours en France. Lorsqu'une personne compose ce numéro, elle entre en contact avec un assistant de régulation médicale, ARM, chargé de collecter les informations nécessaires et d'évaluer la situation. En fonction de cette évaluation, le médecin régulateur, après avoir pris connaissance de l'appel, décide de la prise en charge et envoie, si nécessaire, les secours appropriés. L'efficacité et la rapidité de cette chaîne de secours peuvent être déterminantes pour sauver des vies. Ce système, qui repose sur des décisions prises à distance, est cependant soumis à des enjeux humains et professionnels majeurs. La qualité de la formation des assistants de régulation médicale, leur capacité à évaluer une situation d'urgence uniquement sur la base des informations transmises par l'appelant et la manière dont les décisions sont prises en temps réel sont autant de facteurs qui influencent la prise en charge. Comment les intervenants de la régulation médicale peuvent-ils évaluer avec précision la gravité de l'état d'un malade à travers un simple échange téléphonique ? C'est la question centrale de toute consultation en télémédecine, mais elle se pose de manière encore plus cruciale avec le 15, qui doit identifier les véritables urgences tout en traitant un très grand nombre d'appels chaque jour et chaque nuit. Je reprends donc la discussion commencée dans la première partie avec mes invités, Lolita Bisquera.
Bonjour, je suis Lolita Bisquera, je suis ARM au SAMU de Toulouse depuis 10 ans et formatrice au Centre de formation de régulation médicale depuis 2 ans.
Et Vincent Boone.
Et bonjour, donc Vincent Boone, je suis médecin, professeur d'université et puis chef de service du SAMU 31, donc en particulier qui comprend le centre de réception des appels de la Haute-Garonne.
Merci à tous les deux.
Merci.
Alors dans le rôle d'assistant de régulation médicale, on voit qu'il y a un dialogue constant avec une variété d'interlocuteurs, les médecins, les paramédicaux, les infirmiers, les patients, les proches, voire les proches aidants parfois. Donc ça signifie qu'il y a aussi des différences de langage et d'attitude de chacun de ces interlocuteurs. Et donc l'assistant de régulation médicale, il communique avec chacun d'entre eux. Il doit être en capacité de parler avec le vocabulaire qui correspond au repère de chacun de ses interlocuteurs différents. J'imagine que c'est pas quelque chose d'évident de faire le lien, de faire la traduction en fait entre ces différents mondes.
Oui, c'est vrai qu'on a des interlocuteurs très différents. D'un côté, on peut avoir les médecins ou des équipes médicales ou des paramédicaux qui vont utiliser des termes très techniques. Et de l'autre côté, on va avoir des patients ou leurs proches qui, eux, vont avoir un langage plus commun. Et c'est un vrai exercice d'adaptation pour nous. On doit réussir à décoder ce que les gens disent, peu importe la manière dont ils le disent. On doit répondre d'une manière qui met les gens à l'aise, tout en restant clair et précis.
Ah oui, 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 voilà. Parce que oui, vous cherchez quand même un rapport de confiance, j'imagine.
C'est ça, il faut être sûr qu'on soit compris par la personne qu'on a au téléphone.
D'accord, oui, et ça, ça demande quoi des actes pour trouver un feedback, par exemple, ou interroger un petit peu la personne pour être sûre que...
Oui, alors on apprend les techniques de communication, on a des cours d'ailleurs sur ça.
D'accord. Voilà.
Et on forme même nos futurs assistants de régulation médicale à des cours sur la communication, justement, pour bien réussir à se faire comprendre. C'est très important dans notre métier, puisqu'on ne voit pas, tout passe par téléphone, donc il faut s'assurer que...
Et oui, vous ne voyez pas la personne, ouais, donc il faut bien trouver un moyen de s'assurer qu'elle a bien entendu. Mais la limite, justement, de la télémédecine, c'est qu'il n'y a pas d'examen clinique, donc pas d'autres données que ce qu'exprime la personne qui appelle. Alors, j'évoquais la terrible histoire qui est survenue en 2017, où l'opératrice n'a pas du tout écouté la plainte de la personne. Comment lutter contre des biais qui peuvent être des préjugés culturels ou... Par exemple, un biais qui est bien décrit par la littérature, c'est le syndrome méditerranéen, c'est-à-dire le préjugé dans lequel on considère que les personnes de type méditerranéen se plaignent de manière exagérée de la douleur. Donc cette même question peut se poser avec des personnes ayant une difficulté à s'exprimer, qui peut être liée au choc produit par la situation ou une déficience liée à une pathologie. Donc comment, dans le dialogue, dépasser ces préjugés liés à l'expression ou liés à une situation particulière? Ça fait partie aussi des questions qu'on se pose dans ces formations.
Oula, tout le temps.
Ouais.
C'est vraiment un nœud du problème, ce sur quoi vous avez mis le doigt. La communication, pour nous, effectivement, c'est réellement ce qui nous permet de prendre une décision, au mieux, évidemment, de notre conscience, avec des arguments. C'est-à-dire que, vous savez, en médecine, et par définition, on est des humains, donc l'erreur existe. Quelles que soient les procédures qu'on met en place, nous allons faire des erreurs. Et nous, on part du principe dans le service que l'objectif, évidemment, est d'en faire le moins possible et de travailler sur ces erreurs pour avoir des enseignements qui nous permettent de ne pas les répéter. Mmh. Donc l'objectif, c'est ce que je dis à toutes mes équipes, je vous attends de vous que vous fassiez jamais d'erreur, c'est impossible, mais on ne doit pas faire deux fois la même erreur. Et ça, c'est très important. Voilà.
Oui.
Donc on en revient à ce nœud de la communication. Oui, vous avez raison, le patient nous appelle et déverse sur nous son angoisse, sa peur, sa douleur, avec un vécu qui est extrêmement différent. Vous avez raison, il y a des personnes malades qui ont des problèmes de l'élocution, parce qu'elles ont eu un AVC, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Il y a des personnes qui ne parlent pas bien le français. Il y a des personnes où, culturellement, comme vous l'avez très bien dit, on ne se plaint pas, forcément. Et ça dépend vraiment d'une variété, un panel, clairement, de personnes qui nous appellent, et c'est à nous de nous adapter.
Mmh.
Alors, on a quand même des petites, comment dirais-je, des recommandations, des choses qui nous permettent de nous adapter. La première, c'est clairement, chaque nouvel appel est un nouvel appel, c'est un tableau blanc.
Mmh.
Ce qu'on appelle un peu en anglais, c'est l'anglicisme, le wash-out, mais en gros, entre chaque patient, on remet le cerveau à zéro, et c'est pas parce que le patient d'avant a été compliqué, nous a engueulé, a été, comment dirais-je, difficile à gérer, qu'il faut que le nouveau patient reste dans le même moule, donc on a aussi ça,
oui.
Et ça passe aussi par une organisation des pauses, du temps de travail, qui permet que, par exemple, entre chaque appel, on a un temps où on n'a pas d'appel, pour pouvoir justement vider le cerveau. Très important, voilà. Et donc, on travaille aussi sur le rythme de travail, sur la surcharge de travail, sur les pauses, etc., pour nous permettre d'avoir toujours ça. Deuxième chose, et on essaie toujours, que ce soit les ARM ou les médecins, de parler aux patients.
Mmh.
Pourquoi ? Parce que vous avez le verbal et vous avez aussi, même à l'oral, le non-verbal, vous avez le souffle. Vous voyez, le gémissement, vous avez le timbre de la voix. Et on peut savoir au téléphone si un patient est angoissé, si un patient est essoufflé. Vous voyez, si un patient, ce qu'il ressent, on peut, avec un peu d'expérience, l'avoir. Et c'est ça aussi qu'on essaie de travailler. Ça ne s'apprend pas forcément, mais c'est en tout cas ce sur quoi on met l'accent. Et par exemple, vous voyez, on a des petites aides qui nous permettent de faire compter un patient jusqu'à 10 sans reprendre sa respiration.
Ah, oui.
Ça permet de savoir quelle est sa capacité respiratoire. C'est des petits tests qu'on pratique avec les ARM qui nous permettent de savoir ça. Et puis après, on a d'autres grandes règles. On essaie de ne pas s'énerver et donc de rester neutre au plus possible. On a ce devoir de neutralité qui n'est pas toujours facile à avoir, je vous l'accorde.
Et oui.
On est bien d'accord. Hein, voilà,
quand on est face à quelqu'un qui souffre, il peut être très énervé.
Et puis, des fois aussi, quand même, il faut reconnaître que certaines personnes font vraiment tout pour tomber malade. Que, comment dire, je vais un petit peu caricaturer, mais des personnes se mettent délibérément en danger, boivent énormément d'alcool, font pas attention à elles, et donc se mettent dans des situations de danger qui parfois nous choque un petit peu, vous voyez, c'est-à-dire en gros, on dit mais enfin, comment est-ce qu'il s'est mis dans cette situation-là, vous voyez, quand je vois par exemple des jeunes femmes qui se retrouvent rives mortes toutes seules dans les rues de Toulouse, c'est quelque chose qui moi, à titre personnel, parce que j'ai des filles et parce qu'elles ont le même âge, je me dis, ça me touche, voilà, et donc ça on évite toujours d'avoir ces a priori, comme je dis, tout nouveau patient est un nouveau patient, et donc on essaie d'avoir vraiment ce watch-out. Et enfin, je dirais, le doute bénéficie aux patients. Et ça, c'est une des grandes règles du SAMU. On envoie beaucoup d'ambulances, entre guillemets, pour rien. C'est jamais pour rien, mais vous avez compris qu'ils ne transportent pas les patients.
Mmh.
Chez nous, le taux d'envoi est autour de 30% sans transport derrière.
D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'on envoie aussi des ambulances pour voir.
Mmh.
Parfois, on est quasi intimement convaincu que ça n'est pas grave et qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et bien, très souvent, on envoie quand même parce qu'il y a le quasi. Vous voyez, on est quasi persuadé.
Oui.
Et donc, on en voit quand même pour le 1% de chance où ça pourrait être plus embêtant. Et donc, on a beaucoup d'ambulances comme ça qui font des soins sur place parce que ben, le doute bénéficie aux patients. Donc, c'est des règles assez simples. Vous voyez, on ne s'énerve pas. Mmh. Chaque nouveau patient voilà, doit avoir, entre guillemets, le même niveau de considération que tous les autres. Le doute bénéficie aux patients. Et puis, on essaie au mieux de parler aux patients et d'avoir des questions complètes et claires. Et à partir du moment où on essaie de faire bien son travail, même si on fait une erreur, on ne pourra pas se reprocher de l'avoir faite. Vous voyez ce que je veux dire ? On a fait en notre âme et conscience au mieux qu'on pouvait. Voilà. Mmh. Et je pense que dans l'affaire que vous avez citée, peut-être un des facteurs, on a peut-être le sentiment, mais encore une fois, je ne veux pas porter de jugement trop là-dessus, mais voilà, ce que je demande moi à mes équipes, en tout cas, c'est de faire de leur mieux toujours.
Mmh.
Voilà. Et ça, on a le droit de se tromper à partir du moment où on fait ça.
Oui.
Vous voyez ?
Oui, oui.
Voilà. Voilà. Le moins possible, on est d'accord, mais voilà.
Et du point de vue de la formation des assistants de régulation médicale, il y a un travail aussi sur ces possibles préjugés qui peuvent intervenir dans l'écoute ou...
C'est très compliqué d'enseigner ça parce que c'est le jugement et les préjugés sont propres à chacun. Donc c'est un enseignement qui est difficile, mais oui, on leur explique qu'il faut rester neutre, peu importe le public qu'on va avoir au téléphone. On est là pour aider tout le monde.
Mmh.
Donc...
Oui.
On ne fait pas de différence.
Oui, oui, oui. D'accord. Alors, le rôle des assistants de régulation médicale, c'est aussi de recueillir le bilan de chaque intervention pour permettre de décider de l'orientation du patient vers un service de santé. Comment cette orientation, elle est décidée ? Est-ce que c'est une concertation avec le médecin ? J'imagine bien que oui. Mais en fonction de quoi on oriente le patient vers un établissement plutôt qu'un autre ?
Là encore, beaucoup de questions d'éthique. Mm-hmm. Et puisque vous êtes quand même spécialiste de l'éthique, je vais vous dire quelques questions qui nous préoccupent de manière quotidienne. Faut-il transporter tous les patients ? Mmh. En particulier ceux qui refusent et en particulier ceux dont on pense qu'il pourrait y avoir un risque à les laisser à la maison.
Et oui.
Je prends un exemple assez simple. Une personne appelle pour son mari, sa sœur, son ami qui est dépressif et qui dit il va se tuer, elle va se tuer, allez vite, etc. On va voir la personne qui dit mais non, je ne suis pas dépressif, je vais très bien, etc. Et vous avez tous les degrés de nuance, vous voyez ce que je veux dire. Elle vous dit ça, mais cette personne est par exemple très alcoolisée.
Ah oui, oui, oui.
Vous voyez ?
Vous devez juger vraiment en fonction d'un contexte.
Exactement, ouais. Et c'est très compliqué. Qui est pour nous. Donc on est tout le temps en train de se poser des questions sur la bonne orientation du patient et les bons choix pour les patients.
Mmh.
Et encore une fois, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées, sur lesquelles on a aussi toute une sensibilité individuelle qui joue. On a des décisions qui parfois, évidemment, varient selon les différents intervenants. Et, mais j'aurais tendance à dire qu'on essaie toujours d'avoir le maximum d'informations, très important, et de décider en son âme et conscience. Alors, comment on oriente un patient vers tel ou tel établissement ? Les premiers choix, d'abord, c'est est-ce que le patient est suivi dans tel ou tel établissement ? Une personne qui a déjà fait un infarctus et qui refait un infarctus, la logique médicale veut qu'on l'adresse à l'établissement où il est suivi, où il a son dossier, où il va retrouver son praticien qui le connaît déjà et qui le suit. Donc, ça, c'est beaucoup de patients qu'on hospitalise, on sont déjà suivis pour une pathologie quelque part.
D'accord.
Voilà. Ensuite, il y a aussi la capacité technique qui joue évidemment, la capacité technique d'accueillir le patient. On a parlé des patients qui font un infarctus.
Oui.
Toutes les cliniques sur Toulouse, par exemple, même l'hôpital de Purpan, n'est pas équipée pour prendre en charge un infarctus en phase aiguë. C'est à Rangueil, si vous parlez du CHU.
D'accord.
Et certaines cliniques n'ont pas le plateau technique capable de prendre en charge l'infarctus. Donc, nous n'adressons pas dans ces établissements de patients qui ont des douleurs thoraciques parce qu'il y a un risque qu'ils fassent un infarctus. Et quand le patient demande, évidemment, le choix du patient est important, mais on peut être amené, entre guillemets, à lui expliquer pourquoi on ne respectera pas son choix, parce que, bah, tout simplement, il est suspect de faire un accident vasculaire cérébral et qu'il demande un établissement où il n'y a pas de neurologue, vous voyez, c'est un exemple.
Et,
donc, je dirais que ça fait partie des facteurs vraiment importants.
Mmh.
Et ensuite, il y a aussi un facteur de place disponible. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que les services d'urgence sont chroniquement engorgés et que donc on essaie aussi d'orienter le patient vers des endroits où il y a le moins d'attente possible.
Mmh.
Alors voilà, il y a très souvent de l'attente, bien sûr, mais le moins d'attente possible. Et donc où il peut voir un docteur le plus rapidement possible et donc, entre guillemets, être pris en charge le plus rapidement possible aussi. Voilà. On sait très bien que ce qu'on appelle l'overcrowding, alors encore une fois c'est un anglicisme, mais la surpopulation des urgences est un facteur indépendant d'erreurs médicales dans les services des urgences.
Mmh.
Évidemment, voilà, trop de patients dans les couloirs exposent les soignants à faire des erreurs.
Mmh.
Donc on a aussi ce rôle un peu de régulation sur le territoire. Et donc ce qui fait que c'est un peu une dentelle individualisée pour chaque patient qui est un mix de tous ces facteurs-là. bien entendu. Et parfois, même patient est suivi sur un établissement, mais il y a zéro place sur cet établissement et c'est 2h du matin. Évidemment, on ne peut pas sortir quelqu'un de l'établissement en lui disant « Non, mais vous rentrez chez vous. » Oui, c'est 2h du matin, mais rentrez chez vous. Donc, on peut être amené à adresser un patient vers un autre service, un autre établissement, provisoirement, le temps qu'il soit transféré. Donc voilà, tous ces facteurs-là jouent. Et là, encore une fois, c'est vraiment une connaissance fine du tissu.
Oui, parce que vous avez à votre disposition toutes ces informations. Donc, connaissance du plateau technique, connaissance des places disponibles, etc.
Alors, tout à fait. Évidemment, le plateau technique, c'est très, très variable selon les établissements. Mais depuis le temps, on les connaît. On travaille avec beaucoup de spécialistes de filière. Et puis, on a effectivement ce qui s'appelle... ROR, répertoire opérationnel des ressources. Et les ARM sont formés à utiliser aussi ce ROR parce qu'il nous aide à orienter les patients les plus simples, entre guillemets, ceux qui ne posent pas de problème de plateau technique. Le ROR nous permet d'avoir la saturation d'un service d'urgence à tel ou tel moment, voilà.
D'accord.
Avec un décalage de quelques minutes.
D'accord, ouais. Donc c'est un outil vraiment très précieux pour vous, pour l'orientation.
Tout à fait, voilà. Et parfois, effectivement, on explique à un patient qu'il faut, qu'il fasse 10 ou 15 km de plus, mais qu'il va gagner 4 heures de prise en charge. C'est un argument qui porte énormément quand on l'explique de manière simple et rationnelle. Oui. C'est
oui.
Sans problème.
Oui, voilà. Oui, c'est convaincant, effectivement. Voilà. Et du point de vue des ARM, recueillir ce bilan d'intervention, donc c'est quoi c'est l'équipe qui vous raconte comment s'est passée l'intervention, qu'est-ce qu'ils observent, quel est le bilan clinique, finalement.
Oui, c'est ça. En fait, pour expliquer ce qu'est un bilan, en fait, lorsqu'on envoie une ambulance ou un véhicule de pompiers sur les lieux d'intervention, une fois qu'ils sont sur place, ils doivent rappeler le SAMU pour faire ce qu'on appelle un bilan. Donc, c'est-à-dire un résumé, un compte-rendu détaillé des informations qu'ils vont recueillir en fait, sur l'intervention. Donc, on va avoir dans ce bilan le motif de l'appel, le contexte, les circonstances, les paramètres vitaux, les critères de gravité, les antécédents. Tout un tas d'informations en fait, qui vont nous permettre d'orienter au mieux le patient, avec l'accord bien sûr du médecin régulateur.
D'accord. Et alors, les personnes qui interviennent au 15, que ce soit les assistants de régulation médicale ou les médecins, sont exposées, on l'entend dans vos réponses, à une forte pression, à des situations aiguës de détresse, des situations d'une grande gravité où les appelants sont très angoissés. Sans doute qu'il peut aussi y avoir de l'agressivité, on en a parlé, de la part de ces personnes qui souffrent, qui ont peur. C'est une charge émotionnelle très intense pour les soignants. On entend désormais beaucoup parler de fatigue de compassion ou de traumatisme secondaire, aussi appelé un traumatisme vicarien, c'est-à-dire une forme de stress post-traumatique qui est liée à l'exposition indirecte à une situation traumatique et parfois répétée. Est-ce qu'il y a des actions de prévention de ces risques pour les médecins régulateurs et pour les ARM?
Oui, vous avez raison. C'est effectivement le terme de micro-traumatisme pourrait tout à fait être applicable,
ouais,
clairement. Avec quand même un bémol. D'abord, il faut savoir que les patients les plus graves sont les plus faciles à prendre en charge à la régulation.
D'accord.
Largement. Parce que, encore une fois, ça oublie à des protocoles qui sont extrêmement clairs. Extrêmement précis, et une personne qui s'est pendue, par exemple, pour autant que ce soit extrêmement dramatique pour lui, sa famille, ses proches, pour nous, c'est, entre guillemets, simple du point de vue de la régulation, c'est-à-dire les moyens sont très standardisés, les procédures sont très standardisées, c'est une urgence vitale qui va donc faire partir d'emblée les moyens. Et donc, je dirais, tous ces patients très graves, entre guillemets, sont extrêmement bien cadrés pour nous. Et donc, entre guillemets, c'est pas ceux qui nous posent le plus de problèmes. Là où on va avoir des problèmes, ce sont des patients de type intermédiaire, dont l'histoire est vraiment pas nette et on a du mal à savoir ce qu'il y en est. Et parfois, en toute bonne foi, on passe à côté du patient. Et c'est ceux-là qui peuvent nous exposer en disant « mince, j'aurais dû mieux faire, j'aurais pu mieux faire ». Vous voyez, si on parle des histoires dont vous avez parlé avant, ça reste des patients un petit peu traumatisants en se disant « pour ce patient-là, parce que clairement, on ne travaille pas dans ces services par hasard, je vous assure ». Que ce soit les ARM ou les médecins, on adore ce métier et on n'a pas choisi ce métier par hasard. Voilà. Mais le fait de se dire « je n'ai pas été optimal sur ce dossier » peut effectivement nous perturber. Beaucoup plus, en fait, que « oh là là, j'ai vu 3 morts aujourd'hui ou 3 pendus aujourd'hui
».
Ce n'est pas quelque chose qui va nous perturber. C'est ça, voilà, qui va nous perturber. Cette angoisse de mal faire. Alors oui, après, On a effectivement un vrai système d'accompagnement. D'une part, un système qualité qui fait que tous les dossiers sont analysés a posteriori par une espèce d'algorithme, on va dire, qui nous permet de sortir des dossiers qui sortent un petit peu de la norme et qui permet après de les réanalyser au calme et éventuellement de ajuster en disant voilà, écoute, ce jour-là, t'étais fatigué, t'as fait ça et ça, fais attention, etc. Vous voyez, sans erreur entre guillemets derrière, mais des déviations qui nous permettent de dire attention, ça aurait pu être une erreur ensuite. Vous voyez, voilà. Ensuite, on a également ce qu'on appelle des réunions, des morbi-mortalités qui permettent justement d'avoir une action collective, un peu comme une catharsis générale, sur, voilà, on accepte le fait de faire des erreurs. On accepte d'être un témoin de nos erreurs pour que les autres ne refassent pas d'erreurs. C'est extrêmement important. Ça sous-entend beaucoup d'humilité. Et quand ça a été mis en place dans le service, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on a mis ça en place, même 15 ans. Cela dit, on est très en retard par rapport aux Américains, où ça fait 50 ans qu'ils ont mis ça en place. Mais voilà.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Bon, mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais, mais nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on a mis ça en place dans le service à peu près. Ça a été dur au début, parce que jamais les gens ne voulaient accepter de dire qu'ils avaient fait une erreur. Et maintenant, on est capable de dire, oui, j'aurais dû me faire pour ce patient, a posteriori, avec les éléments que j'avais, j'aurais pu faire ça et ça différemment. Voilà. Et c'est très important d'avoir ce moment, parce que tout simplement, l'équipe s'aperçoit quelque part qu'elle n'est pas infaillible, et c'est très 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 bien. C'est une très belle leçon d'humilité, parce que de l'humilité naît la connaissance que justement on peut s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est important, voilà. Et le troisième élément, qui est aussi un élément tout à fait louable, je pense, c'est la présence dans nos locaux des membres de la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, qui sont prêts à débriefer assez rapidement finalement. Les personnes qui ont été exposées à un traumatisme. Voilà.
D'accord.
Oui, alors effectivement, il faut savoir qu'évidemment, on est confronté en permanence à la mort. On la côtoie de manière quotidienne.
Oui.
À la vie aussi, mais à la mort, à la souffrance, à la douleur. Donc, on développe une forme d'échappement qui est assez classique chez les personnes qui travaillent dans les SAMU, avec un peu de cynisme, un petit peu de second degré, et parfois on est un peu plus touché que ce qu'on voudrait bien montrer.
Et oui.
Cette consultation qu'on peut avoir assez rapidement et auquel moi je peux tout à fait l'avouer, j'ai eu affaire une fois parce que j'étais pas bien après une très grosse série d'interventions, permet de relativiser et de repartir. Donc ça, c'est important aussi de savoir qu'on a des personnes qui peuvent nous écouter sans nous juger, nous permettre de relativiser toujours. Voilà. Donc je dirais que c'est plusieurs de ces mesures qu'on a mis en place et qui permettent, je pense en tout cas, d'être mieux. Après, je vous dis souvent quand même le fait de faire des pauses régulières, de blaguer avec les camarades autour d'une pause repas, de relativiser ou de donner des avis permet beaucoup de résilience, en fait. Voilà. La notion d'équipe est importante pour nous. On n'est jamais seul. Dans un CRA, on est tous entassés les uns sur les autres, littéralement, parce que cette notion d'équipe est importante, je pense, pour la prise en charge des patients.
Ouais. Oui, on est, en fait, ce qu'on entend dans votre réponse, c'est que chacun est porté par le collectif, d'une certaine manière.
Tout à fait. Ouais. Et au SAMU, le fonctionnement du SAMU, c'est une chaîne de la confiance, en fait, qu'on fait. Chacun a une mission dont l'aboutissement va dépendre entièrement du travail des autres. Aucun ne fait une tâche du début jusqu'à la fin dans le CRA. C'est-à-dire que les assistants d'éducation médicale vont prendre un appel. C'est une série de missions à faire, par exemple, voir la gravité, voir où est l'appelant, très important, où on est. Extrêmement important. Tromper d'adresse, c'est exposé à des délais importants aussi. Donne des conseils préliminaires, fonde un site de gravité, envoie des moyens, passe au médecin qui sait que le travail était bien fait avant, et l'assistant de régulation médicale sait que le médecin va bien faire son travail. En suivant, voyez, le médecin peut décider l'envoi d'ambulance, l'ambulance sera envoyée par une autre personne, et on va faire confiance à cette personne pour envoyer l'ambulance dans les moyens. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Et ensuite, le bilan est pris par une autre personne, dont on lui fait confiance aussi pour finir cette chaîne, vous voyez.
Et donc c'est vraiment une chaîne, chacun fait confiance au travail qui a précédé.
C'est une chaîne de la confiance. On est obligé de faire ça parce qu'on a un volume d'appels qui est important. Je ne sais pas si on en parlera, mais le SAMU de Toulouse, c'est 750 000 appels par an. Vous voyez ce que ça fait. Et donc, on est sur réellement cette confiance et donc la notion de collectif, de travail en équipe et de solidarité dans le collectif, elle est fondamentale.
Et du point de vue des ARM, ils ont eux aussi accès au CUMPS, j'imagine.
À la CUMPS, oui, tout à fait. Oui. Ouais. En fait, comme l'a dit Vincent, on ne fait pas ce métier par hasard, c'est un peu un métier vocation, donc on est quand même préparé à recevoir des appels de détresse. On fait face à la mort, clairement, à chaque garde où on est posté.
Ouais.
Et Donc, on apprend à gérer ça. Mais on a quand même des appels où on sait que ça va être difficile parce qu'on a tendance des fois à se projeter, parce qu'on a chacun une histoire personnelle différente. Oui. Donc, en fonction de chaque appel, on peut se projeter, se dire ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à ma famille. Et c'est vrai que c'est des appels qui peuvent nous toucher. Mmh. Donc, on apprend à débriefer, que ce soit entre nous, même avec le médecin de l'équipe qui est parti sur place, si on a besoin de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Voilà, on est... On peut totalement discuter, on est vraiment une équipe et pour ça, c'est bien, ça nous permet de débriefer, de passer à autre chose. Et bon, voilà, on fait une petite pause et puis on reprend l'appel suivant et tout va bien.
Et c'est un élément qui peut être abordé au cours de la formation des assistants de régulation médicale, ça, cette question de l'exposition à des situations aiguës ou de stress ou de...
Oui, bien sûr. D'ailleurs, la CUMP vient faire une intervention pendant la formation... au CFARM, justement, indique aux futurs ARM voilà, quels sont les signes à repérer si jamais ça ne va pas après un appel, justement, pour ne pas hésiter à aller consulter, à aller voir quelqu'un. On est préparé à ça.
Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses à tous les deux. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.